Peinture, sculpture, dessin, architecture, l'art en partage, Evelyne Hugaglia. Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie. Le mois dernier, nous avons évoqué avec Mathieu Scapin, commissaire de l'exposition Age of Classics, actuellement présentée au Musée Saint-Raymond de Toulouse, la question de la réception de l'art antique dans l'art contemporain. Et le sculpteur Léo Caillard y expose une œuvre confronté à un original antique, le discobol, le lanceur de disques. Je vais donc aujourd'hui vous parler de l'œuvre antique, pas de l'original à proprement parler, malheureusement, car ce dernier était en bronze et a depuis longtemps disparu, mais des répliques, et en particulier de l'unique réplique découverte en France et conservée au Musée Saint-Raymond de Toulouse. L'œuvre grecque originale était donc en bronze et due au sculpteur grec Miron d'Éleuthère, du nom de la cité frontière de l'Attique et de la Béotie où il était né, et ce sculpteur célèbre travaille à Athènes entre 460 et 448 avant notre ère, donc juste avant la construction du Parthénon dont nous avons parlé ici même. Et Miron est avant tout un bronzier, donc comme Phidias et Polyclète, il a été l'élève d'Agéladas à Argos, et il est évident qu'il a été sous l'influence du maître, mais bien sûr il va rapidement le dépasser. Miron y a appris l'art complexe et exigeant du bronze coulé. C'est un patricien de la première moitié du 5e siècle, donc de ce fait, il bénéficie des avancées du siècle précédent. Mais il va se trouver confronté à l'obsession qui anime alors tous les sculpteurs, la volonté de traduire le corps humain au plus près de la réalité par son observation et d'en donner à voir sa beauté, non seulement en se rapprochant le plus possible de la nature, mais en la dépassant. À la suite de son maître, Miron cherche aussi à exprimer les sentiments. Et ce, à une période où nombre de sculptures sont déployées dans les espaces publics, aussi bien sur l'agora, la place publique, qu'autour des temples, comme sur l'acropole d'Athènes, et ce, dans nombre de cités grecques. Les historiens de l'art ont divisé cette période en deux phases, la préclassique, enfin le préclassicisme, ou style sévère, et le premier art classique. La date du style sévère s'amorce vers 490. Mais les chercheurs actuels ne sont pas forcément d'accord entre eux. C'est à la suite d'ailleurs de qualificatifs donnés par les Romains, qui trouvaient ces sculptures de cette période à la fois dures, rigides et austères, que l'historien de l'art allemand, Winckelmann, en 1764, qualifia ce style de sévère. Peut-être parce qu'aussi la période coïncidait avec le développement de la tragédie, et on cherche alors à exprimer, outre le mouvement, les sentiments, tant dans les visages que dans les attitudes. Bien évidemment, il n'y a pas de rupture radicale à un instant T. Autour de 510-490, se sont amorcés des changements qui se concrétisent quelques 20 ans plus tard. Pour John Bornan, historien de l'art anglais, dans la lignée de ses prédécesseurs français Jean Charbonneau et René Ginouvès, le style sévère se termine en 480. Pour Claude Rollet, historien de l'art aujourd'hui décédé mais grand spécialiste français de la sculpture grecque, le style sévère continue jusqu'en 447, date de la construction du Parthénon. Donc pour faire simple, disons que de 480 à 450 coexistent une certaine uniformisation des styles et des particularismes d'ateliers locaux, tandis qu'à partir de 447, la reconstruction du Parthénon, en rassemblant sous la houlette de Phidias des sculpteurs venus de tous horizons, va gommer définitivement ces différences au profit de ce que l'on appelle l'art attique, c'est-à-dire l'art d'Athènes. À l'époque qui nous intéresse, donc dans la première moitié du 5e siècle avant notre ère, la sculpture devient essentiellement un art des bronziers, et Miron est un des sculpteurs majeurs de la période. Dans l'Antiquité des Grecs, il était surtout célèbre pour sa vache en bronze, qui était hyper réaliste, qui trônait sur l'agora d'Athènes, et dont une légende raconte même qu'un bouvier y a perdu son veau qui tentait désespérément de la téter. Malheureusement, bien que ramenée à Rome vers 550 de notre ère, elle ne nous est pas parvenue et aucune réplique non plus. Miron avait aussi sculpté un chien, lui par contre est exposé au musée de l'Acropole d'Athènes. Rares sont les sculpteurs de cette époque qui représentent un animal pour lui-même. D'autres œuvres de Miron sont connues, comme le groupe d'Athéna et Marsyas, dont une très belle réplique romane de l'Athéna est également conservée au musée Saint-Raymond de Toulouse, et nombreuses sont les œuvres qui lui sont attribuées par la littérature, les écrits de Pausanias et de Strabon en particulier. Ce dernier relate entre autres un groupe de l'éraillon de Samos, c'est-à-dire le sanctuaire de la déesse Héra, l'épouse de Zeus. Ce groupe représentait Athéna amenant devant Zeus Héraclès à la suite du succès de ses travaux. Au 1er siècle avant notre ère, Marc-Antoine, le Romain donc, avait rapporté ce groupe à Rome comme trophée de guerre. Par la suite, l'empereur Auguste aurait restitué dans leur temple d'origine l'Athéna et l'Héraclès et gardé uniquement la statue de Zeus qu'il aurait installée dans le temple romain du Capitole. Nous n'avons hélas aucune description précise de ce Zeus de Miron, mais je me plais à imaginer que c'est peut-être lui qui aurait pu inspirer le petit Jupiter de bronze de Bouillac que le musée Saint-Raymond de Toulouse a acquis il y a quelques années et qui est exposé au deuxième étage du musée. Je vous invite à aller le voir car non seulement il est magnifique, mais sa tête est très différente des classiques représentations habituelles. Elle n'est pas sans rappeler justement des œuvres grecques du début de l'époque dite sévère. Voilà pourquoi je fais ce rapprochement, même si, bien sûr, en l'absence de toute preuve, cela ne peut n'être qu'une hypothèse. Pour en terminer avec les œuvres connues de Miron, je vous rappelle qu'aujourd'hui, certains historiens de l'art estiment qu'il est aussi l'auteur d'un des deux célèbres bronzes de Riace que j'avais présenté au cours d'une émission. Donc la célébrité de la vache d'Athènes avait disparu dès l'époque hellénistique au profit d'une autre sculpture dont on va parler maintenant, celle de son athlète lançant le disque, plus connu sous le nom de discobole. Il existe quelques représentations contemporaines de ce sport sur de la céramique, des monnaies ou des intailles. Le discobole est créé vers 460-450 avant notre ère, en bronze donc, œuvre certes disparue, mais bien connue par des répliques romaines en marbre, car cette œuvre a eu la faveur des Romains, pourtant peu sportifs. Mais l'avoir chez soi était une marque de culture, de raffinement et d'appartenance à la classe aisée. Aussi, plusieurs œuvres en marbre nous sont parvenues, 4 statues à peu près complètes, 4 torses intégrées par restauration dans d'autres statues à une époque où justement on n'avait pas encore identifié le type, et ces 8 sculptures ont été mises au jour en Italie, à Rome, dans le Latium et à Pompéi. On conserve également une 20aine de fragments, dont 3 têtes. Parmi ces fragments, un seul, le plus important, puisqu'il s'agit d'un torse des épaules à mi-cuisse, en marbre du Pentélique, donc grec, et en relatif bon état malgré quelques épouffures, a été découvert en France, dans la province romaine de Narbonnaise, mais aujourd'hui en terre occitane, à Carcassonne précisément, dans le lit de l'Aude au XVIIIe siècle. Il aurait été intéressant alors de draguer le fleuve, car cette sculpture devait certainement être complète et on aurait pu retrouver peut-être d'autres fragments. La statue représente un athlète nu qui s'apprête à lancer le disque de bronze. Il le tient de sa main droite, bras balancés en arrière, et relevé le plus possible dans un ultime élan. Le torse tourné vers le bras et le buste penché vers l'avant, il prend appui sur sa jambe droite, genou fléchi, pied bien à plat, tandis que de la gauche, fléchi et en arrière, qui est aussi fléchie, repose juste sur la pointe des orteils ou sur le dessus des orteils. Elle est là uniquement pour maintenir la stabilité et elle s'apprête à accompagner le lancer en se propulsant vers l'avant pour maintenir l'équilibre du lanceur. Le bras gauche maintient l'équilibre instable de la pose en penchant vers le genou droit, voire s'appuyant sur lui. Les deux bras forment alors une sorte d'arc de cercle quasiment parfait. Presque toutes les statues romaines reprennent ce schéma. La seule statue complète, dite Lancelotti, je reviendrai dessus ensuite, a été trouvée avec sa tête et celle-ci est tournée vers l'arrière pour accompagner le geste du regard. L'œuvre originale était donc en bronze et bien sûr réalisée en plusieurs parties judicieusement assemblées, comme souvent pour les grands bronzes de cette époque, comme on l'a vu pour ceux dont j'ai déjà parlé. On peut imaginer que les yeux, objets de raffinement, étaient incrustés d'ivoire pour la cornée et que pour l'iris et les pupilles, on avait utilisé du verre ou un métal semi-précieux, tandis que les lèvres étaient contrastées par l'utilisation d'un métal de couleurs différentes, souvent du cuivre, ainsi que les mamelons. Mais les recherches allemandes actuelles, à partir de sources antiques et des études menées sur les bronzes antiques existants, ont mis en avant que les statues de bronze, à l'instar des marbres, étaient polychromes. Non seulement par l'utilisation de métaux différents, mais aussi par un traitement de la surface à l'aide d'une préparation de laque et de pigments colorés, ainsi que d'une patine artificielle obtenue avec du sulfure d'argent. Ils ont ainsi démontré l'utilisation importante du soufre, qui, selon sa concentration et les traitements successifs à chaud, font prendre au bronze, en fonction de sa teneur en cuivre, une couleur qui varie du rougeâtre au brun rouge, bleu, vert ou noir. Cette patine artificielle avait entre autres pour but de préserver l'œuvre de l'oxydation atmosphérique. Il ne faut pas oublier que la Grèce est quand même presque une île, enfin, ou en tout cas des presqu'îles entourées d'eau, et donc l'oxydation devait être assez forte. Ils utilisaient également le bitume dilué dans l'huile de lin. En fonction des degrés de dilution, ils obtenaient une laque de bitume, plus ou moins liquide et transparente, qui donnait un revêtement allant du brun au noir. Elle pouvait aussi servir de liant pour des pigments à grains fins comme l'ocre, la céruse ou la laque de Garance. Donc l'idée que les bronzes anciens neufs avaient l'aspect du bronze neuf, c'est-à-dire doré, est absolument fausse pour les statues puisqu'ils les patinaient artificiellement. Miro maîtrisait parfaitement ces techniques complexes et il avait su surtout insuffler la vie à ses œuvres. C'est ce qui le distinguait de nombreux autres patriciens et faisait sa réputation.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
C'était mon hommage personnel à Notre-Dame avec la voix d'Yves Montand qui interprétait Sous le ciel de Paris d'Hubert Giraud et Jean Dréjac, chanson du film éponyme de Julien Duvivier sorti en 1951. Vous êtes toujours sur Esprit Occitanie, l'art en partage, et j'ai plaisir d'aborder avec vous l'œuvre du sculpteur grec Miron et en particulier son discobole, connu par plusieurs répliques romaines de qualité. La plus célèbre, car entière et en parfait état, est certainement le discobole Lancelotti, du nom du premier collectionneur. La statue, quasiment complète, a été découverte en 1781 dans la villa Palombard, sur l'Esquilin, près de l'actuelle église Santa Maria Maggiore à Rome. Elle appartient actuellement aux collections du Musée national d'art romain et elle est exposée à Rome au Palazzo Massimo alle Terme, que je vous invite à aller visiter si vous ne la connaissez pas. Elle prend la pose décrite plus haut du personnage, s'apprêtant à lancer le disque, bras droit tendu en arrière, jambe droite d'appui fléchie et jambe gauche fléchie libre en arrière, bras gauche pendant sur la jambe d'appui et la tête est tournée vers l'arrière, mais le regard s'arrête à mi-course. Et ce regard fixe des yeux ne se concentre ni sur le disque, comme on l'attendrait, ni sur aucune partie du corps, mais sur l'espace ouvert. Et selon l'historienne de l'art grec Arat Liberi, cette position de la tête se prépare en fait au lancement réel du disque. Elle reflèterait en quelque sorte la concentration mentale d'anticipation de l'athlète qui se porte sur un point spécifique de l'orbite qu'il imagine que le disque va suivre une fois lancé. Donc c'est grâce à cette œuvre que le thème a été identifié. Tous les torses découverts jusque-là n'étaient pas compris. Celui de Carcassonne, incomplet et exposé au musée Saint-Raymond, a été acheté avant 1784 par le peintre Pierre Rivals pour sa collection et il était considéré alors comme un personnage assis et présenté de cette manière comme l'atteste une gravure de l'époque. Il n'a été identifié comme un fragment du discobole qu'en 1903 par l'archéologue amateur toulousain Léon Joula. Par chance, il n'a jamais été restauré d'aucune manière. Et j'ouvre ici une parenthèse. Pardon. Une restitution de ce discobole complet existe, mais elle est virtuelle et visible à partir de lunettes 3D spécifiques. Le musée a réalisé cela grâce au mécénat et au soutien logistique des ingénieurs et informaticiens de la société Altran à Toulouse. Et je pense que si vous vous adressez au service des publics au musée, vous devriez pouvoir y avoir accès. Car malheureusement, la logistique du musée ne permet pas de laisser cette application fragile en permanence à la disposition du public, mais elle est très intéressante. Pour en revenir à l'œuvre originale, malgré son séjour dans l'eau, qui a forcément atténué l'aspect de sa surface, on retrouve dans cette œuvre toute la vigueur de l'athlète et sa tête devrait se tourner vers le bras droit. Les chercheurs actuels, comme l'italienne Anna Anguissola, le considèrent comme une œuvre majeure, dans laquelle la cage thoracique et sa torsion musculaire sont particulièrement bien rendues. Les côtes accentuées, les muscles thoraciques bien définis. De même, le bassin est prononcé et il existe une nette différenciation entre le ventre vu de face et le thorax qui lui est en rotation. Par ailleurs, dans le dos, l'omoplate, tout comme le muscle est tiré par le mouvement ascendant du bras droit, sont modelés avec justesse, voire raffinement. La ligne courbe de la colonne est prononcée et les fessiers bien marqués. On sent toute la tension de l'effort. Le buste est légèrement redressé par rapport à celui du Lancelotti, malgré une inclinaison correcte des jambes, comme si le bras arrière était en train de redescendre. Il s'agissait en fait d'une œuvre de très grande qualité qui est sortie d'un atelier qui maîtrisait parfaitement son art. Une autre statue, incomplète, puisque le bras droit, la tête et une partie des jambes ont disparu, est conservée au Palazzo Massimo à Lettere. C'est celle retrouvée à Castel Porziano, dans le Latium, en 1906, et dont le buste plus étroit se rapproche du Townley Discobolus du British Museum, de la collection de Charles Townley, découverte en 1791, donc à peu près 10 ans après le Lancelotti, à Tivoli, dans la villa de l'empereur Adrien, et achetée en 1794. La collection de Townley est entrée au British Museum en 1814. Il a été restauré par Carlo Albacini au niveau du disque, des membres, des orteils et des doigts, mais il est quasiment complet. Et la tête, bien qu'antique, par contre, ne lui appartient pas, même si Thomas Jenkins, qui achetait à Rome pour Townley, certifiait qu'elle avait été découverte en même temps que le corps, mais séparée. Le rendu des détails anatomiques du Townley sont plus durs et la surface apparaît molle, les plis sont peu profonds. L'œuvre paraît beaucoup plus idéalisée et moins réaliste que celle du musée Saint-Raymond, par exemple. Un autre discobole fut découvert dans la même villa de l'empereur Adrien à Tivoli l'année suivante, en 1792, sans tête, mais auquel on a refait une tête du type de celle du Townley et elle est aujourd'hui conservée au Vatican. L'œuvre la plus anciennement découverte est sans contexte le torse mis au jour au XVIe siècle et intégré en 1734 dans les collections des musées capitolins de Rome. À cette époque-là, l'origine du motif n'était pas identifiée. Et le torse a alors été restauré en gladiateur mourant ou soldat blessé, on peut l'appeler comme on veut. Son état de conservation, en fait, était similaire à celui du Carcassonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni tête, ni bras, ni jambes, parce que trop fragiles, ces parties n'avaient pas résisté aux destructions. Et en conséquence, la tête, les bras et les jambes, et partant bien sûr sa position, ont été totalement inventés. Des deux autres torses, celui de la galerie des offices de Florence, découvert aussi très tôt au cours du XVIe siècle, mais sans que l'on sache ni précisément quand ni où, et celui de la collection Lansdowne de Wiltshire, en Grande-Bretagne, découvert lui à Ostia en 1775, furent restaurés en sujet mythologique. Pour le premier, celui de Florence, en endymion aveuglé par la lune, c'était un thème particulièrement prisé par les peintres contemporains de cette restauration, et pour le second, en Diomède portant la statue de Pallas. Dans les deux cas, seuls les torses sont authentiques et proviennent de Discobol. Le rendu de la torsion et de la musculature de celui de Florence est particulièrement beau. Donc toutes ces répliques romaines sont datées stylistiquement de la période impériale du règne d'Adrien, soit de la première moitié du deuxième siècle de notre ère, voire un tout petit peu plus tardif, un peu vers le milieu du deuxième siècle, sous la période antonine. Il est difficile de retrouver l'œuvre exacte de Miron, à partir de ces copies romaines, qui certainement ne sont pas des copies fidèles, du moins si on en croit Quintilien, qui était un rhéteur du premier siècle de notre ère, et l'auteur latin prônait en effet qu'une copie ne devait pas être servile, mais que l'artiste se devait d'inventer pour, je cite, « rendre service à l'art ». Et il semblerait en fait que ce soit surtout le Lancelotti qui se rapproche le plus de l'original. On retrouve en effet des proportions fines avec des muscles tendus et arrondis comme ceux du Lancelotti dans les statues attiques en bronze du deuxième quart du Ve siècle avant notre ère, donc contemporaine de la sculpture originale du Miron. Une reproduction en bronze de petite dimension d'un discobole trouvé à Ambelokipoi à Athènes, probablement datant de la fin du IIe ou du IIIe siècle de notre ère, a exactement la même attitude que celle du Lancelotti, malgré un état extrêmement corrodé de la surface et la grande qualité du travail reste perceptible, aussi bien dans la pose que dans le style. La forme de la tête, la proéminence du dos, la douceur de l'abdomen, le bassin rétréci et les grands traits arrondis des fesses, tout est très proche des caractéristiques du Lancelotti, même dans l'exécution des détails comme celui de la courbe profonde de la colonne vertébrale. Une deuxième statue de bronze d'un discobole conservé à la Glyptothèque de Munich et datant du IIIe siècle de notre ère lui ressemble beaucoup, particulièrement dans le rendu de la pose, la position des jambes et des pieds, mais aussi dans la posture de la tête, bien qu'ici le regard soit franchement porté sur le disque, parce que la tête est très bien conservée. Dans ces figurines, le mouvement est beaucoup plus libre et naturel que dans les statues de marbre, car en effet, quand on construit une statue en marbre, eh bien pour maintenir la stabilité de l'œuvre, un support est absolument nécessaire, souvent sous la forme de troncs d'arbre, alors que pour un bronze, on n'en a pas besoin, même lorsqu'il est de grande dimension. Donc essayons maintenant d'analyser l'œuvre pour comprendre la création de Miron. Dans le lancer du disque, l'athlète devait prendre son élan en balançant plusieurs fois le bras en arrière et le corps faire un tour complet avant de lancer le disque. Miron a choisi un instant en équilibre. Il saisit l'instant décisif où le bras a terminé son élan et est sur le point de redescendre. Il est comme suspendu tandis que le poids du corps repose sur la jambe fléchie. La jambe posée, également fléchie, contrebalance le mouvement du bras et maintient l'équilibre instable en s'appuyant à peine sur les orteils. Lorsque le disque aura été lancé, elle va se propulser en avant pour établir l'équilibre. Le buste est donc en torsion complète vers l'arrière, de même que la tête qui se tourne vers le bras tendu comme sur le Lancelotti, les yeux regardant le disque comme sur le petit bronze de la Glyptothèque de Munich. Cette position est attestée par les descriptions des auteurs anciens, dont Lucien, qui est un auteur latin du IIe siècle de notre ère. Elle est donc juste. Le corps paraît alors emporté par l'élan, Miron semble avoir voulu traduire l'arrêt d'un instant fugace, ultra rapide. Cependant, il ne s'agit pas d'un instantané. L'attitude est totalement composée. Miron exploite des acquis de la période précédente et, à l'aube du classicisme, il défie toutes les lois de la stabilité pour placer dans l'espace un instant de ce mouvement. Il nous donne à voir un corps totalement composé de moments différents pour chaque partie du corps et les fiche dans un instant donné. Et comme l'a si bien analysé la spécialiste grecque de l'art classique, Arat Liveri, Miron représente pour la première fois une statue grandeur nature dont le corps se plie sans altération. Mais il va plus loin, parce qu'il crée en fait un sentiment d'équilibre fugace, une espèce de moment d'arrêt temporaire entre action et statisme. L'oscillation du mouvement entre le moment de repos et le jet imminent du disque traduit vraiment la qualité très personnelle de la pose. L'équilibre et la stabilité de la statue est basée sur la répartition des forces antithétiques et dérive principalement de la position délicate des pieds, l'un soutenant le poids du corps, l'autre détendu, reposé légèrement sur les parties supérieures des orteils, juste pour maintenir un équilibre finalement aussi instable que fugace. Donc le schéma iconographique qui en résulte semble novateur, en réalité il est très conventionnel, car il se réfère à une typologie familière, celle du menu masculin athlétique éprouvé, à l'anatomie précise, aux proportions, justes et équilibrées, comme dans toute œuvre classique, mais dont la disposition des membres dans l'espace est parfaitement calculée. Il représente en fait l'équilibre de forces opposées. Vers l'avant, les bras forment un arc de cercle, tandis que l'arrière forme un zigzag. Ce qui laisse supposer que le sculpteur a travaillé des plans en triangle opposé. Et ce faisant, la ligne arrière du corps formée par le dos et la cuisse d'appui forme un autre arc de cercle inversé à celui des bras. Selon Pline, un auteur latin célèbre, Miron a été le premier sculpteur, je cite, « à étendre la représentation de la réalité. Il a utilisé davantage de motifs de composition que Polyclète dans son art et il possédait un système de symétrie plus complexe. » Miron a réussi en quelque sorte à rendre une pose réaliste en ce sens qu'il a dépassé la réalité et en utilisant davantage des schémas de composition. L'œuvre apparaît sculptée sur un plan unique, faite pour être vue selon un seul angle, de face, comme un relief sans fond. Pourtant, on sent toute la force, la tension qui anime le geste. Et si on compare le Lancelotti avec le Tonglet, le sculpteur du premier a davantage insisté sur la musculature, la tension qui fait sortir les veines. Cependant, la tête n'est pas totalement dans la bonne position. Elle devrait regarder davantage en arrière et surtout commencer à se relever pour anticiper le mouvement brusque du lancer, comme sur le bronze d'Athènes ou celui de Munich, sans doute plus proche de l'original d'ailleurs dans l'attitude. Vous comprendrez que cette posture caractéristique du discobol le rend identifiable. Et c'est pour cela que jusqu'à la découverte de l'œuvre complète, qui est le discobol Lancelotti, on n'identifiait absolument pas les torses mis au jour, et nombre d'entre eux furent abusivement restaurés selon l'interprétation erronée qui en était faite. Quoi qu'il en soit, le discobol est une création mironienne, la synthèse expressive d'un corps, d'un caractère et d'une technique, d'un art, celui de Miron, qui représente la beauté parfaite de l'éphèbe, obtenue par le sport qui le prépare à devenir un soldat et donc un homme. Pour reprendre Ian Jenkins, conservateur au British Museum, il est le symbole incarné de la quête permanente de l'ordre mesuré dans l'hostile chaos du monde. Et on a souvent dit que la vue latérale de la pose était la seule vue qui donnait son sens à l'œuvre, que lorsqu'il est vu de front, par exemple, il perd toute cohérence. On a alors la sensation de voir un enchevêtrement désordonné de membres, sans concept précis, car très souvent, ces œuvres étaient placées devant un mur, et donc avec peu d'espace autour. Si on place ces statues dans l'espace, que l'on puisse tourner autour, comme c'est le cas au musée Saint-Raymond à Toulouse, par exemple, ou pour voir autour du Lancelotti, au contraire, cela permet de libérer la sculpture des contraintes académiques de Miron, d'en saisir sa rondeur, de la rendre plus naturelle, et tout autant en pleine action, peut-être même plus réaliste. Elle fait alors oublier cette conception rigide d'équilibre des forces opposées et on s'aperçoit qu'elle est parfaitement équilibrée autour de son axe de gravité. Une pose aussi compliquée indique et implique nécessairement une torsion des axes, une torsion du torse, une poussée des bras ou des jambes dans l'espace. L'aspect tridimensionnel en fait, d'une telle statue se compose obligatoirement de divers éléments dont le plus important est la modélisation correcte des masses qui remplissent l'espace en trois dimensions. La recherche de la réalité et de la vérité intéressait les sculpteurs du 5e siècle qui représentaient des hommes tels qu'ils étaient et non tels qu'ils paraissaient. Donc l'art du 5e avant notre ère utilisait des constructions mathématiques basées sur le rythme et la symétrie. En cela, les sculptures reflétaient des vues philosophiques des premiers pythagoriciens. Non seulement Miron, mais aussi Polyclète ont été influencés par le système de proportion de Pythagore. Les deux artistes étaient à peu près contemporains, bronziers et issus du même atelier des Géladas d'Argos, et chacun avait sa théorie sur le système de proportion. Le système de Polyclète, le fameux canon bien connu, est basé sur un ensemble de mesures de proportion entre les différentes parties du corps, tandis que le système de Miron révèle les centres de mouvement de la composition. Au final, la contribution de Miron semble beaucoup plus audacieuse. Miron, nous dit Pline, était plus enclin à utiliser des modèles dans la composition de ses sculptures et plus exigeant dans son utilisation de la proportion mesurée. Dans le disco-ball, le corps reste délibérément équilibré pour suggérer un effet plutôt que de montrer une action réelle du lancer du disque, ce qui est très fréquent à cette époque-là. Plus on s'approche du milieu du 5e siècle avant notre ère, plus l'art acquiert un moyen plus important d'exprimer non seulement la forme mais aussi l'idée. Les valeurs artistiques telles que la symétrie, le rythme, l'harmonie ont toutes fait écho à la prédominance de la pensée rationnelle. Il y a une influence des modèles picturaux tirés de la scénographie de peinture de paysage, mais également du drame en général. Et Aristote a observé des danseurs, y compris dans des pièces de théâtre. Par des gestes rythmiques, ils représentent à la fois un caractère, des expériences et des actions, disait-il. Cependant, dans l'œuvre de Miron, du moins si on en croit la seule réplique qui est sa tête d'origine, Lancelotti, toujours lui, le visage reste inerte et aucune expression particulière ne l'anime. Ses traits sont classiques, dirons-nous, et sans caractère particulier. Et ce qui confirme en quelque sorte le point de vue de Pline, selon lequel Miron, je cite, « bien que très attentif en ce qui concerne les corps, n'a pas réussi à exprimer un sentiment d'animation intérieure. » Que signifie le disco ball ? On l'interprète souvent comme le souvenir d'un saint athlète victorieux lors des jeux tels que ceux qui étaient offerts à Athéna lors de la fête des Panathénées, par exemple. Mais il s'agissait peut-être d'un personnage appartenant à un groupe mythologique tel que Miron les affectionnait. Nous pourrait-on y voir, par exemple, un élément d'un mythe, celui de Hyacinthe, fils, selon les légendes, du roi Damoclès dans le Péloponnèse, en Laconie, donc proche de Sparte, ou fils d'un roi de Sparte, Eubole. Ce jeune homme était d'une beauté tellement exceptionnelle que Zéphyr et Apollon en étaient amoureux. Alors qu'Apollon, qui était son professeur, lui apprenait à lancer le disque vint par accident, ou soufflé par Zéphyr et conduit, selon les versions, heurter la tête du jeune homme et le tuer, privant ainsi Apollon de son amant. Et Hyacinthe était adoré à Sparte, dans le sanctuaire d'Amyclée, lors de la fête des Hyacinthes. Son culte pourrait être à l'origine de la pédérastie institutionnelle spartiate, qui était un rite de passage, préparant les jeunes gens à devenir soldats. Sa mort, suivie de sa résurrection par Apollon et de son apothéose, représente le passage à l'âge adulte. Une entaille conservée au British Museum représente le disco ball associé à l'inscription Hyacinthos. Elle pourrait être non seulement le souvenir de ce mythe, mais aussi le témoin d'une statue. Miron, comme dans les tragédies ou sur les stèles funéraires contemporaines, pourrait alors avoir représenté le jeune prince juste avant le moment fatidique pour en accentuer la dramaturgie. C'est quelque chose de très classique dans l'art grec. Ce que corroborerait le visage idéalisé du disco ball et le style théâtral en quelque sorte de l'œuvre, dans le sens où la communication avec le spectateur est facilitée par la position du corps, qui pour un acteur ou un danseur est le moyen le plus expressif de dévoiler le sens de la scène. Quoi qu'il en soit, au seuil de la période que les historiens de l'art appellent classique, Miron a donc créé une œuvre sophistiquée en lui insufflant l'esprit du grand art. Non pas destinée à une vision unique, sur un seul plan, mais bien une œuvre tridimensionnelle, parfaitement équilibrée et réussie, utilisant les conventions de l'art préclassique telles que le caractère analytique de la pose et un système complexe de proportions et de plans de composition tout à fait novateur. Ce faisant, il a mis en place des principes classiques de la mise en scène de toute représentation d'une activité humaine. Et c'est cette conception tout à fait originale qui rend le disco ball si fondamental dans l'art grec. C'était L'art en partage, une émission animée par Evelyne Ugaglia, à l'aide technique Hugo Pepitone, que je remercie chaleureusement. Et je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de la radio Esprit Occitanie, ainsi bien sûr que sur le site de la station et à les podcaster à loisir. À bientôt !